L'atelier des médias, Julien Lebotte.
Ne fétichisons pas le futur. Ces propos que j'adapte librement sont ceux d'Amy Webb, une futurologue américaine assez inclassable. Amy Webb a d'abord étudié le journalisme dans une université américaine. Elle s'est ensuite très vite détournée des rédactions pour s'intéresser à l'innovation, à la R&D comme on dit, pour recherche et développement, avant de se mettre à vendre ses oracles sur l'avenir des médias, du web et de l'information, au travers notamment d'un institut bien nommé « Le futur, c'est maintenant ». Amy Webb a également écrit 2 livres, et c'est dans ce cadre que j'ai pu lire cette semaine un excellent billet publié sur le site Internet Actu intitulé « Pourquoi démocratiser la prospective ?» Et que dit-elle ? Eh bien qu'il est capital de démocratiser les compétences du public en matière de prospective. Pourquoi parler de prospective d'abord et pourquoi ensuite est-ce si essentiel à l'avenir de nos démocraties ? La prospective, c'est un mot français qui a disparu des radars. Et pourtant, plutôt que de commenter la bouche en cœur les innovations développées par des start-up américaines de dimension mondiale, la prospective analyse, projette et se donne des objectifs de long terme. Il faut anticiper sur le monde qu'on invente et pas seulement innover techniquement. Or, un chercheur, quand il cherche, n'a pas nécessairement la pensée du tout, dit-elle. Il se focalise d'abord sur sa recherche et son objectif, c'est de réussir à trouver sa solution, point barre. Il ne se préoccupe pas, ou pas toujours en tout cas, du reste. La prospective, si elle est ouverte et partagée, doit permettre, je cite, de réfléchir à la façon dont telle ou telle ligne de code ou tel résultat pourrait rejaillir sur la santé, la géopolitique ou quoi que ce soit d'autre. Ceci me conduit d'ailleurs à la seconde idée qui est formulée par Amy Webb et que j'ai envie de partager avec vous en ce début d'année. Si l'on ne veut pas se voir imposer des progrès qui n'en sont pas, il faut éviter de laisser la presse technologique nous dire ce que l'avenir nous réserve. Plus on est nombreux à s'interroger, à comprendre, à mettre en perspective puis à partager, plus on doit pouvoir éviter l'écume des jours qui peut mener droit au récif. Et plus on est en droit de se dire qu'on invente bien des lendemains qui chantent.
L'atelier des médias, à l'écoute de la société numérique et de l'innovation.
D'ailleurs, je vais vous proposer aujourd'hui d'entendre 2 adeptes de la prospective et de l'innovation dans le domaine des médias. Nous retrouverons donc dans une dizaine de minutes Éric Scherrer, directeur de la prospective et de l'innovation pour France Télévisions, et Benoît Thiolin, doyen de l'école de communication de Sciences Po, et nous parlerons de la génération No Bullshit, du projet Streetvox, du bot de Libé ou encore du phénomène des fausses informations. Mais tout de suite, destination le Tchad pour notre coup de fil de la semaine, et on appelle Sandrine Nagartiga. Bonjour Sandrine.
Bonjour Julien.
Alors, vous êtes l'une des blogueuses émérites de la 5e promotion de Modoblog. Vous êtes afro-optimiste, comme on dit, c'est-à-dire que vous croyez fermement en l'avenir des jeunesses africaines et vous êtes actuellement à N'Djamena pour développer un projet qui s'appelle Entreprendre l'Afrique. Sandrine, dites-nous tout. Entreprendre l'Afrique, qu'est-ce que c'est ?
Alors, donc, merci beaucoup. Effectivement, donc, je suis en direct de N'Djamena. Entreprendre l'Afrique est né d'une volonté, en quelque sorte, de promouvoir des initiatives portées par les jeunes sur le continent africain. On avait décidé de lancer une plateforme 100% collaborative qui va permettre aux jeunes, à travers le continent africain, de promouvoir les initiatives qui se passent sur le continent.
Si je ne m'abuse, en gros, il s'agit d'un incubateur un peu particulier puisque tu appelles ça un incubateur média.
Exactement. Donc, la plateforme nous a servi en quelque sorte à projeter la vision qui est de créer un incubateur média, donc en Afrique, dans un premier temps au Tchad, pour pouvoir vraiment accompagner cette volonté de promouvoir les initiatives sur le continent.
Quels sont le type d'initiatives que vous souhaitez accompagner sur le terrain, Sandrine ?
Alors, ce sont tout d'abord des initiatives entrepreneuriales, donc de tout genre, hein, que ce soit dans l'agro-business, dans les technologies de l'information et de la communication, dans l'entrepreneuriat social, voilà, toutes ces parties-là, on les permettrait de les développer dans l'incubateur média. Et en parallèle aussi, des jeunes qui ont des projets orientés médias, notamment journalisme, web journalisme, data, formation, qu'on pourrait accompagner via l'incubateur qu'on aimerait mettre en place au Tchad.
Entreprendre l'Afrique, c'est un projet qui est encore jeune, qui est en train de se développer. Grosso modo, quel est le calendrier ? Quelles sont les prochaines étapes pour vous, Sandrine ?
Alors donc là, demain, on a une conférence de presse à N'Djamena pour lancer déjà la plateforme qui a été faite par Benaclab et Entreprendre l'Afrique. On retrouvera l'adresse www.entreprendreafrique.com. Et maintenant, une fois que ce sera lancé, donc on aimerait maintenant participer à une recherche de financement pour accompagner l'incubateur média qu'on souhaite vraiment installer au Tchad. Donc là, on se donne jusqu'à juin 2017 en espérant avoir bouclé ce financement-là pour commencer à entreprendre les travaux.
Sandrine Naguère-Tiga, je rappelle aux auditeurs que vous êtes mondoblogueuse, qu'il est facile de retrouver vos articles sur le blog youngleader.mondoblog.org et on attend donc de vos nouvelles et on va suivre de très près Entreprendre l'Afrique. Merci Sandrine.
Merci beaucoup à vous, merci à toute l'équipe et à bientôt.
Faites-nous part de vos actualités médias et innovations en publiant sur le site de l'Atelier des médias, atelier.rfi.fr.
Quoi de neuf, quoi de beau cette semaine dans le radar de l'Atelier des médias? L'avenir de la désinformation passe-t-elle par l'intelligence artificielle? Souvenez-vous, on a beaucoup parlé du rôle des algorithmes de Facebook dans la dissémination à tout vent de fausses informations sur les réseaux sociaux. Et là, ça se complique. Un article publié fin décembre sur le site The Verge revient sur le cas de Smile Vector, un bot sur Twitter capable de modifier automatiquement l'expression de personnes et de personnalités sur des photos récupérées en ligne pour les faire sourire. Autrement dit, il est aujourd'hui possible de trahir une image en lui faisant dire autre chose que ce qu'elle montre. Allez voir sur le compte Twitter Smile Vector, c'est littéralement bluffant. Ce genre de manipulation des images est relativement facile aujourd'hui à produire par des laboratoires de recherche. Et ce type de transfert d'expression est également possible sur des vidéos, voire même sur du son. D'ailleurs, pour vous convaincre que nous y sommes presque déjà, allez faire un tour sur les filtres de Snapchat. Il est déjà possible de transformer en temps réel votre visage en lui conférant un air angélique ou un style futuriste. En somme, le travail de vérification des faits et des images risque de se compliquer un peu plus dans les années qui viennent. La plateforme Medium vire un tiers de ses effectifs pour tenter de renouer avec son pari initial, rassembler sur sa plateforme le meilleur des connaissances disponibles sur les internets. Et c'est Eve Williams, le dirigeant de Medium, qui a donc décidé de se séparer de la plupart de ses équipes commerciales, pour ne garder en place que les équipes en charge de la plateforme et du projet lui-même. L'enjeu principal pour Medium reste de trouver un moyen pour inverser la vapeur et les usages. Il ne faut pas que la publicité finance des contenus mis à disposition des internautes habitués à cette illusion de gratuité. Non, il faut réussir à faire en sorte que les bons articles et les pensées utiles soient financés directement par ceux-là même qui viennent sur Medium pour les lire. Un pari radical de la part d'Eve Williams et une entreprise audacieuse pour le dirigeant de Medium qui montre au moins que l'internet reste aux yeux de certains un espace qui peut et doit rester au service de la connaissance, des savoirs et des internautes. Pourquoi n'y a-t-il pas de fake news ou fausses informations sur LinkedIn? Au fond, la question se pose, et je ne m'étais pas encore fait la réflexion avant qu'un article publié sur le site recode.net ne vienne apporter des éléments de réponse intéressants. Commençons par le commencement. LinkedIn et Facebook, ce sont deux des réseaux sociaux les plus importants au monde, et leur fonction, pour le dire très vite, c'est de permettre à leurs utilisateurs de partager des informations. Mais la ressemblance, explique l'un des responsables de LinkedIn dans un entretien avec un journaliste de Recode, s'arrête là. Pourquoi? D'abord parce que, à l'inverse du réseau social de Mark Zuckerberg, LinkedIn fait appel à des éditeurs pour venir pondérer et contrôler ce que les algorithmes filtrent en première ligne. Ils ne sont que 25, certes, ces éditeurs, mais ils sont répartis partout dans le monde et ces derniers sont là pour venir tordre le cou très vite à toute fausse information susceptible de venir nuire à la qualité des échanges sur LinkedIn. Mais s'il n'y a pas autant de fausses informations ou de rumeurs sur LinkedIn, estime encore Daniel Roth, c'est tout simplement parce que les utilisateurs de LinkedIn exècrent les propos politiques. Pour le dire autrement, business is business, les affaires sont les affaires, et il n'est pas question de venir troller le réseautage professionnel ou encore de nuire au plan de carrière en se prononçant sur la politique migratoire selon Donald Trump, le devenir de l'assurance maladie en France selon François Fillon ou encore le rôle de Jean-Claude Juncker dans la persistance des pratiques fiscales aguicheuses du Luxembourg. Morale de l'histoire pour étudier la sociologie des plateformes, la main invisible du marché, c'est sans doute le modérateur en chef le plus efficace sur LinkedIn. Vous connaissez nos manies numériques à l'atelier, on tweet presque tous qu'on brève au micro, donc tous les liens sont à retrouver maintenant sur le compte Twitter de l'atelier, atelier_media. L'une des figures imposées des débuts d'année, c'est souvent la prospective ouverte. Chacun y va de ses prédictions, on se donne des airs de prophète et on croise les doigts dans l'espoir que les choses se feront bien comme on les avait entrevues. En matière d'innovation média et d'accès à l'information, l'exercice est particulièrement périlleux. Vous me direz qu'il existe une tendance lourde. Le monde est traversé de flux et de données, du sud au nord, les écrans sont aujourd'hui partout présents grâce au mobile et la métamorphose numérique de nos sociétés, on le sait désormais, c'est bien plus qu'une question de technique, c'est un enjeu culturel, politique et démocratique. Certes, mais ensuite, comment fait-on quand on veut voir et quand on veut regarder l'avenir en face? Je me suis amusé à regarder du côté de quelques billets dits prospectifs publiés il y a un peu plus d'un an, c'est-à-dire en 2016. Et qu'est-ce que j'y ai trouvé? Eh bien d'abord qu'il reste très difficile d'anticiper par-delà ces tendances de fond, mais qu'il reste possible, rassurez-vous, de lire entre les lignes. Exemple, qui avait prévu en 2016 le succès de la fonctionnalité Facebook Live dans les médias? Personne en particulier, mais on le pressentait avec le frémissement autour de l'application de vidéo en direct Periscope lancée par Twitter. Mais il était très difficile de prévoir le fait que presque tous les médias allaient tester dès 2016 le live sur Facebook tout en plateformisant plus que jamais leurs articles et leurs vidéos. Alors pour mémoire, plateformiser, c'est publier toutes ces vidéos et tous ces contenus sur les réseaux sociaux pour qu'ils soient lus sur ces mêmes réseaux sociaux. Ce qui, entre parenthèses, pose bien des questions. Bref, second exemple de prédiction possible pour 2016, mais pour le coup difficile à anticiper, eh bien c'était l'apparition des sites dits de fake news ou de fausses informations pullulant sur la toile à l'occasion de l'élection présidentielle américaine. Et pour le coup, personne ne s'attendait à une telle déferlante. On va d'ailleurs pouvoir en reparler aujourd'hui. D'ailleurs, assez parlé et à notre tour d'essayer de lire dans les entrailles de l'avenir. Bonjour Eric Scherrer.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous recevoir ici. Pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes journaliste, vous êtes aujourd'hui directeur de la prospective pour France Télévisions. D'ailleurs, c'est amusant ce mot aujourd'hui, c'est plutôt innovation qui est plus à la mode. Prospective, ça renvoie presque à un autre imaginaire. Un imaginaire où le temps nous disait que le futur, c'est demain, anticiper, c'était possible, c'était souhaitable. Rassurez-nous, est-ce que c'est encore possible d'anticiper ?
Est-ce que c'est facile d'anticiper? Non, c'est pas facile. Je résume souvent pour dire que je fais plutôt l'anti-brouillard que le prospectiviste, évidemment, l'anti-brouillard pour essayer de regarder quelques mètres devant nous de ce qui se passe dans un monde qui bouge, vous l'avez dit, sans arrêt, tout le temps, très très vite. La seule chose qu'on sait qui ne change pas, c'est justement ce changement permanent. Mais c'est ça qui est intéressant.
Alors justement, vos cahiers de tendance sont devenus des références pour là où les communautés francophones qui sont branchées, médias, numériques et innovation. Et là, cette année, à lire votre ou vos 12e cahiers de tendance, on sent qu'il y a un nouveau cap historique qui est franchi et vous dites qu'il faut apprendre à parler à la génération no bullshit. Alors d'abord, je vous laisse le soin de traduire en français et ensuite, je vous laisse interpréter. Génération no bullshit, ça veut dire quoi, Eric Scherrer ?
C'est un petit peu de provocation qui, évidemment, pour grossir le trait, mais génération no bullshit, c'est la génération des millennials, les 18-35, qui sont en ce moment majoritaires. On a un petit peu trop tendance à ne pas vouloir le voir. Là aussi, déni, beaucoup de déni tout le temps pour tout le monde. Ils sont majoritaires en Amérique du Nord, ils sont bientôt majoritaires en Europe. Ils le sont évidemment en Afrique, comme en Asie, mais ils n'ont pas encore tout à fait le pouvoir. Et parce que les seniors, les vieux comme moi, sont crispés et veulent le garder. Or, c'est évidemment cette génération-là qui en ce moment s'installe, pour ce qui nous concerne, nous médias, s'installe dans des nouveaux usages. Et tout le problème des vieux médias installés et traditionnels, c'est que ces jeunes qui sont en train de prendre le pouvoir ont des usages qui ne répliqueront pas les nôtres une fois qu'ils seront littéralement dans ce qu'on appelle la vie active. En d'autres termes, ces jeunes ne vont pas acheter le monde en sortant du travail, ne vont pas regarder le JT du soir à 20h.
Et c'est pour ça que vous écrivez, j'imagine, il faut donner les clés aux jeunes, c'est-à-dire qu'il est urgent d'avoir un changement générationnel à la tête des différents médias.
Oui, je vais y revenir après. Mais no bullshit, parce que je pense que cette génération-là est beaucoup plus empreinte. À partir du moment où ils se sont saisis de nos outils de production, de diffusion, qu'ils les maîtrisent, ils sont beaucoup moins enclins au bling-bling ou aux paillettes des médias traditionnels, y compris de la télévision. Je crois que le mot-clé pour cette génération-là, c'est l'authenticité. C'est la transparence, c'est la proximité. et que la génération précédente qui dirigeait ces médias-là était encore dans une forme de verticalité, de je parle, vous écoutez, qui empêchait l'interaction verticale, mais aussi l'interaction horizontale qui n'existait pas, puisque l'Internet n'existait pas. C'est ça qui change.
Vous passez d'ailleurs le plus clair de votre temps à ausculter notamment ce qu'il se passe de l'autre côté de l'Atlantique, mais on a eu envie en fait à l'atelier de trouver un projet média, en un certain sens no bullshit en France. Et je crois que on a trouvé ce projet notamment avec Streetvox qui va être lancé par l'excellent Streetpress. Alors Streetvox, pour le dire très vite, c'est un mini-site qui va être lancé début janvier avec d'une part des articles fabriqués par des contributeurs invités, aka les voxeurs qui sont repérés par les journalistes de Streetpress, mais aussi des formats vidéo plutôt face caméra ou en tout cas montés pour le web. Je vous propose d'écouter Johan Weiss-Miara qui est au micro de Constance Léon avec une première question. Pourquoi Streetvox, surtout à quelques mois de l'élection présidentielle en France?
Ça fait un peu plus d'un an qu'on bosse sur Streetvox. Le point de départ, c'était qu'on avait l'impression que le traitement médiatique de l'actualité correspondait pas à ce que les gens attendaient, qu'il y avait souvent des buzz, que souvent les minorités, la nouvelle génération étaient traitées comme des sujets qui n'avaient pas forcément la parole. Il y a plein de sujets dans l'actu où on parle des gens, mais ils peuvent pas parler d'eux-mêmes. Alors on va pas, on demande pas un strapontin pour les minorités, pour qu'elles puissent avoir un strapontin dans le débat public. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est d'organiser un débat public autonome, indépendant, Streetvox du coup, qui fasse sens en soi et qui produise l'intelligence, du témoignage, la discussion. On va pas dire aux gens quoi penser. On va sur Streetvox animer le débat public en ligne et sur les réseaux.
Streetvox, c'est 300 voxeurs qui sont cette communauté qui va alimenter la rubrique Streetvox sur le site de Streetpress.
Streetvox, c'est aussi bien des activistes de terrain, des militants associatifs, des jeunes chercheurs, des doctorants, mais aussi des youtubeurs qui vont prendre la parole avec nous, des entrepreneurs, des makers, des gens qui font des trucs, qui pensent la société actuelle et la société de demain. Donc on sera dans les lieux où le débat se fait et notre rôle, c'est de structurer ce débat-là et de l'animer.
On entendait donc Johan Weiss-Miara, donc de Streetvox, et donc qui est un projet de Streetpress. Éric Scherrer, donc un média no bullshit, c'est donc d'abord le reflet ou l'émanation d'une communauté de faiseurs et non pas un plateau de commentateurs.
Oui, c'est exactement ça. C'est une interaction dans les deux sens. C'est l'opposé de la position de surplomb, cet échange qui peut permettre, je dis pas qu'on est sûr de ne pas rater des choses, mais qui peut permettre de ne pas rater autant de choses que les médias traditionnels l'ont fait. Je voyais encore ce matin dans Slate le journaliste, un ancien de RFI, je crois, qui a écrit Les Revenants, qui raconte comment les médias traditionnels n'ont pas vu venir, dit-il, les mouvements des Français qui partaient faire le djihad. Mais il y a plein d'exemples comme ça. Cette année, ça a multiplié. Trump, le Brexit, avant c'était le changement climatique, c'était la crise des subprimes. Tout ça, on n'a rien vu venir. Comment c'est possible? Comment est-ce possible aujourd'hui de continuer son métier quand on rate autant de choses?
Alors justement, il est intéressant d'entendre les motivations de l'équipe qui lance justement Streetvox. On continue avec Johan Weiss-Miara au micro de Constance Léon. Pour qui lancer Streetvox et pourquoi finalement?
En fait, Streetpress, c'est un média qui a pour but de raconter la société française, d'ailleurs principalement sur Paris et la banlieue pour Streetpress. Donc on est un média de temps long. Streetvox, c'est un média chaud qui du coup a vocation à produire tous les jours 5 témoignages et 5 tribunes. Donc t'es sur un format beaucoup plus réactif à l'actu qui mécaniquement va faire beaucoup plus d'audience. On a un objectif de 100 000 vues par vidéo, mais l'objectif d'audience est pas un objectif d'audience sur le site. Et donc on va pas compter le nombre de lecteurs qui viennent sur Streetvox. Honnêtement, on s'en fout. On va compter le nombre de gens qui rematent les vidéos, qui lisent les papiers, indépendamment du fait qu'ils le lisent sur Streetvox ou sur Instant Articles sur Facebook. L'objectif étant d'avoir le plus gros impact possible pour les points de vue qu'on va aller chercher et de faire que ces points de vue et ces témoignages touchent pas uniquement des gens qui sont convaincus d'avance.
C'est assez frappant, c'est cette facilité qu'ont les petits médias, qui sont des médias agiles, à tenter d'expérimenter, d'innover, et en un certain sens, on le voit avec Streetpress, qui régulièrement lance des projets un peu data, donc avec un peu de données, ou des projets plus vidéo. Il y a cette aptitude au fait de trouver des langages ou des grammaires qui sont adaptés aux nouveaux usages, et notamment d'ailleurs aux réseaux sociaux.
Oui, c'est vrai, agilité, nouveau format, travail avec d'autres métiers, et puis il faut qu'il soit sur le terrain, qu'il soit en proximité avec son sujet. Donc tout ça a un coût, tout ça... pose évidemment le problème du modèle économique, non résolu dans la mutation qui est la nôtre. Mais c'est, semble-t-il, la bonne piste, oui.
Éric Scherrer, je vous propose de marquer une pause. Nous accueillerons Benoît Thiolin, qui est doyen de l'école de communication de Sciences Po et directeur de la NetSquad, et nous pourrons continuer de sortir les antibrouillards pour tenter d'y voir plus clair dans ce que 2017 nous réserve en matière d'innovation média. À tout de suite, après le flash. Atelier des médias, seconde partie. Nous sommes toujours en compagnie d'Éric Scherrer, directeur de la prospective à France Télévisions, qui est venu ici pour nous parler des 12e cahiers de tendance de Métamédia, une livraison qui se pose notamment la question de la place des millennials, ces natifs du numérique, dans le paysage médiatique. Pour enrichir notre conversation, Éric, j'ai le plaisir de recevoir également Benoît Thiolin, qui a de multiples casquettes, doyen de l'école de communication de Sciences Po ou encore fondateur d'une agence qui s'appelle la NetSquad. C'est aussi et surtout un observateur avisé du jeu politique à l'heure du numérique. Benoît Thiolin, vous nous parlez depuis des années d'empouvoirment des internautes. Alors d'abord, est-ce que ça se dit vraiment? Et puis, c'est quoi l'empouvoirment quand on parle des médias?
Empouvoirment, c'est une traduction libre de ma part d'ailleurs, du concept plus anglo-saxon d'ailleurs, qui est empowerment, et qui, je pense, est une des dynamiques profondes de ce que l'on vit aujourd'hui, de la révolution numérique, c'est-à-dire qu'elle distribue des moyens, elle distribue des capacités, elle distribue des pouvoirs. Je pense qu'empouvoirment, au fond, est probablement le terme, ou en tout cas la traduction française qui véhicule le mieux cette idée, au fond, de dynamique transformatrice et de modification au fond des différents pouvoirs qui étaient ceux de notre société jusque-là, le pouvoir des médias, le pouvoir de la politique, le pouvoir économique, le pouvoir financier ou autre. Ben on vit une modification profonde de ces pouvoirs qui se distribuent, qui se diffusent davantage. Alors ça peut être évidemment pour le meilleur, et je crois sur le long terme que ce sera effectivement le cas, mais ça peut aussi poser des questions quand même difficiles, que ce soit dans les médias, dans la politique ou autre. Aujourd'hui, on voit d'ailleurs une espèce de rétroaction, et parfois même de régression, au fond, de ce que le numérique a pu apporter ces 20 dernières années. C'est ça qui rend d'ailleurs la période actuelle absolument passionnante et un peu parfois vertigineuse.
Et votre réflexion appliquée aux médias donne l'impression que justement, pour maximiser l'impact, il faut qu'en un certain sens, le média soit capable d'animer sa communauté, voire même de l'aider à accoucher de certaines solutions, ou en tout cas, d'être dans une expérimentation partagée et une incarnation partagée.
Oui, et puis, il faut bien voir que ce phénomène-là, ça se donne à tout le monde. C'est-à-dire que ça peut être pour le meilleur. L'exemple que vous preniez tout à l'heure était passionnant. Ils sont enthousiasmants. On sent qu'il y a énormément d'expérimentation. On vit aussi une forme de démocratisation des moyens. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, vous pouvez, avec quelques téléphones portables, au fond, avoir une régie qui était celle d'une chaîne de télévision d'il y a 10 ou 15 ans. C'est prodigieux. Et évidemment que ça ne fait que commencer. C'est-à-dire que les gens prennent conscience, en fait, qu'ils peuvent quasiment tout faire, techniquement. Ensuite, évidemment, il faut du temps, il faut des moyens, du financement, il faut du talent. Mais je veux dire, viser une communauté, avoir des moyens de pouvoir créer un média aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, disons, assez accessible et c'est un changement absolument radical. Simplement, ce phénomène-là, en réalité, on prend conscience qu'il se fait, parfois pour le meilleur, mais il se fait aussi dans des communautés qui sont moins sympathiques et avec des phénomènes d'enfermement, de bulles, comme le disait Eric tout à l'heure, qui sont inquiétants. Vous avez aujourd'hui toute une part de l'extrême droite, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits en France, notamment sur la fachosphère ou sur l'alt-right aux États-Unis, qui montrent qu'aujourd'hui, vous avez des phénomènes en réalité de reconstruction de communautés avec leurs propres médias qui se montent la tête tout seul dans leur coin et que personne au fond ne regarde vraiment. Et c'est une des explications, en tout cas, une des interrogations très très fortes qu'on a sur ce qui s'est passé aux États-Unis pendant la campagne présidentielle. On a continué de regarder ce que nous lisions, c'est-à-dire le New York Times, éventuellement Fox News. Mais imaginez quand même le renversement. Les dernières élections présidentielles, hein, celles de George Bush, Obama, etc., Fox News était le média alternatif qu'on montrait comme vraiment le média sale, celui qui fait du populisme. Vous avez vu le recentrage de Fox News ? Fox News restait au fond un média traditionnel. Et on se rend bien compte qu'en réalité, c'est sous cette ligne de flottaison médiatique, sous laquelle en fait les élites regardent assez peu, en tout cas les élites, on va dire, un peu plus âgées, celles qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et en dessous de cette ligne de flottaison, on prend conscience qu'en réalité, il y a un océan d'informations dont on ne sait pas très bien qui il touche, on ne sait pas très bien ce qu'il véhicule, mais ce qui est certain, c'est qu'il véhicule même pas ce que disait Fox News. Et que les quelques études, les quelques carottes qui ont pu être faites sur l'irrigation médiatique des peuples, enfin de la population américaine, pendant la campagne notamment, montrent qu'en réalité, c'est sans commune mesure avec ce que les élites lisaient ou regardaient à la télévision. Et ça, c'est un changement radical.
Oui, vous vouliez réagir, Éric Scherrer?
Oui, oui, Benoît a raison. Il y a deux. Là, on arrive sur deux problèmes en fait. D'un côté, et le problème du qui explique le double phénomène fake news et ce qu'on appelle le post-truth, qu'on pourra évoquer tout à l'heure. Mais c'est d'un côté la démocratisation des outils de production et de diffusion qui tombent dans des mains qui sont pas forcément les bonnes entre guillemets, mais en tout cas qui passent sous le radar. Et donc qui déclenche des phénomènes qui ne sont pas regardés, et de l'autre côté, des médias dépassés, qui n'ont plus les bons capteurs, des médias traditionnels, j'entends, qui n'ont plus les bons capteurs pour voir ce qui se passe dans la société. Donc vous avez un double effet qui se conjugue et qui amène le succès des fake news par les réseaux sociaux et de ce qu'on appelle le post-truth, c'est-à-dire l'après-vérité, qui fait que l'émotion l'emporte sur les faits.
Alors revenons justement sur ces sites de fausses informations. Est-ce que vous avez été surpris par leur poids justement dans la campagne ? Et est-ce que vous pensez que finalement on a affaire à une tendance de fond qui est en train vraiment de transformer encore le paysage ? Éric Chéret.
Attention, on est au début de l'analyse de ce qui est en train de se passer. C'est absolument, à mon sens, c'est absolument crucial de regarder de très près ce qui se passe et de réagir vite. De réagir vite parce que c'est pas simple. C'est pas seulement des fake news ou des sites bidons qui émergent ici et là. Il peut y avoir des intérêts de grande puissance qui sont à l'œuvre. Des accusations qui sont mises sur la table en ce moment aux États-Unis. Elles apparaissent en Europe. En tout cas, il y a des inquiétudes officielles qui sont apparues en Europe sur le sujet par manipulation, désinformation délibérée par ces nouveaux outils. Donc, c'est pas seulement des gamins dans un garage en Macédoine forcément qui s'amusent à tromper le redneck américain.
Oui, la fabrique de la désinformation est une affaire très 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 sérieuse. Et on voit que les réseaux sociaux, Facebook en particulier, font tout pour ne pas avoir à devenir des médias et font tout pour circonscrire leurs responsabilités. Et pourtant, ils sont plus que jamais au cœur de l'information. Alors, je vous cite un extrait d'article du Figaro qui explique justement, Facebook a été montré du doigt pour ne pas avoir endigué la diffusion de ces fausses informations. Un article prétendant que le pape François avait exprimé son soutien au candidat républicain a ainsi été multipartagé. Un autre affirmant qu'un agent fédéral enquêtant sur Hillary Clinton avait été retrouvé mort a également rencontré un vif succès. Et la réponse de Facebook est la suivante. Nous ne pouvons pas nous-mêmes nous établir en arbitre de la vérité. Aussi, abordons-nous ce problème avec précaution. Est-ce que vous pensez que cette génération dont vous parlez, qui s'informe exclusivement par les réseaux sociaux, est en un certain sens bien armée par rapport à ces enjeux de fond ?
Non. Non, je ne le crois pas. Je pense que ça fait partie d'ailleurs des choses. Autant cette génération, à très juste titre, a une critique féroce, acide des médias traditionnels, parce qu'elle les voit à juste titre, comme à peu près tous les anciens pouvoirs, comme des pouvoirs verticaux, pyramidaux et avec des gatekeepers, c'est-à-dire des gens qui tiennent la porte d'entrée. Bon, c'est clair que le numérique décapsule tout ça et que c'est très heureux parce qu'il y a plein d'effets pervers au fond à ces phénomènes qui n'étaient pas vraiment démocratiques. Mais à l'inverse, le monde totalement désintermédié dans lequel on est, il le regarde avec, à mon avis, assez peu de regard critique, et c'est un vrai sujet aujourd'hui. Alors, c'est pas pour dire que ma grand-mère ou ma mère n'est pas victime de la même bulle algorithmique que la jeune génération, mais on pourrait être en attente que les digital natives aient, je dirais, un rapport plus critique, plus distancié à ces nouveaux phénomènes d'information, de mise en relation, tous les effets pervers qu'il peut y avoir dans les réseaux ou dans le monde d'algorithmes dans lequel on vit. Et la réponse est plutôt non. C'est-à-dire que toutes les études qui sont faites sur cette génération-là montrent qu'il y a assez peu de distance critique par rapport à ça. Et là, à mon avis, il y a peut-être deux réflexions qu'il faut avoir en plus sur ces analyses-là. La première, c'est qu'il faut peut-être quand même regarder aussi en termes de classe sociale et de niveau d'éducation. C'est-à-dire que ça n'est pas tout à fait la même chose que d'avoir fait une école d'ingénieur, d'avoir eu quelques profs qui nous ont enseigné un regard, on va dire, critique sur les nouvelles formes d'aliénation, parce que c'est bien de ça dont on parle. C'est-à-dire que le monde dans lequel on était jusque-là était un monde évidemment avec plein d'aliénation, mais d'une certaine manière, elles étaient assez connues. Et d'ailleurs, les jeunes générations se manquent pas de les critiquer pour ça. Mais en revanche, le monde dans lequel on est en train d'entrer. Lui, les aliénations sont beaucoup plus complexes. Elles sont très ciblées, au fond. Vous êtes aliéné d'une certaine manière, je ne serai pas du tout de la même manière. Et elles sont assez peu analysées aujourd'hui. Et donc ça, je pense que c'est un premier biais. Et évidemment, face à ça, je dirais, le niveau d'éducation et culturel est absolument clé. C'est-à-dire qu'on pourrait aller dans un monde dans lequel l'aliénation va être décuplée par le numérique et ciblant particulièrement des publics défavorisés. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on oublie trop vite. On met les jeunes générations qui seraient au fond sur ces nouveaux supports, et puis les vieux qui continuent de regarder uniquement les médias traditionnels. En réalité, vous avez toute une masse au milieu qui en fait est un peu sur les deux. Mes parents, ils sont pas en permanence sur Facebook, mais ils reçoivent dans les mails des informations fausses, complotistes, des fake news, etc. Et ils ont peut-être encore moins le regard critique que d'autres pouvaient avoir ou qui ont plus de pratique sur ces sujets-là. Et il faut que ces deux notions-là, hein, à la fois la différenciation par niveau culturel et social et l'énorme masse dans la transition qui n'est ni un millennial ni complètement du monde d'avant, je pense que ces deux phénomènes-là, il faut qu'ils nourrissent notre réflexion sur ces transformations.
Je rappelle aux auditeurs que nous sommes avec Benoît Thiolin et Eric Scherer et nous sommes ici pour parler notamment des cahiers de tendance de la génération No Bullshit et puis de ce qui pourrait nous arriver dans les mois qui viennent, notamment en France avec la présidentielle française. Est-ce que vous pensez qu'une constellation de médias de désinformation, justement comme on en a vu apparaître aux États-Unis avec des armées de contributeurs dans des pays francophones, sont en mesure de venir déstabiliser en un certain sens l'accès à l'information par rapport à cette échéance électorale majeure, Benoît Thiolin?
Oui, je pense que ça peut complètement arriver. Oui, oui, je pense que ça peut arriver. D'abord parce que c'est pas quelque chose en fait qui va nous tomber du ciel là pour cette élection. La réalité, c'est qu'en fait, il y a déjà une structuration ancienne qui a plusieurs années de communautés d'extrême gauche, d'extrême droite, de radicaux qui sont et qui produisent leurs propres informations, structurent leur communauté de manière complètement déconnectée des médias et des élites traditionnelles. Ça, cette chose-là existe déjà depuis des années et se renforce encore plus ces derniers mois, évidemment. Avec la perspective des élections. Et puis, il faut quand même voir aussi que cette espèce de d'agora incroyable et qui est un progrès démocratique. Hein. Vous avez aujourd'hui une place du débat public qui est d'une richesse, qui est d'une horizontalité qu'on n'avait jamais eue en fait dans les démocraties dont on a besoin. Il faut s'en féliciter. Mais évidemment, le corollaire un peu dangereux de cette situation, c'est qu'à partir du moment où vous avez une place du débat public dans lequel n'importe qui peut intervenir, ben vous pouvez, si vous en avez les moyens, une armée de hackers, que vous soyez une grande entreprise qui veut peser sur le sort d'une élection ou éventuellement un État, ben vous avez d'une certaine manière des moyens pour pouvoir y intervenir. On a quand même de fortes présomptions aujourd'hui que les services secrets russes aient pesé fortement sur les élections américaines. Imaginons demain, il y a commencé des choses qui bruissent aujourd'hui sur la toile en France. Imaginez demain que des vidéos qui véhiculent des idées proches, par exemple du Front National, et des diffusions et des audiences qui soient sans commune mesure avec ce que les médias traditionnels véhiculent sur les réseaux sociaux dans ces communautés très diffusées, très très atomisées. Bah, imaginez que pendant plusieurs mois, des informations comme ça, fausses ou vraies d'ailleurs, peu importe, mais qui vont tout d'un coup être plus appuyées sur des publics qui sont pas forcément les élites qui lisent Le Monde et regardent le journal de France Télévisions. Eh ben, écoutez. Au bout de quelques semaines, quelques mois, est-ce que tout ça ne peut pas avoir une conséquence sur, évidemment, l'opinion en général, sachant que aujourd'hui, l'essentiel de l'endroit où se forgent les idées des individus, elle se fait sur ces médias-là. Elle se fait là-dessus. Les gens, aujourd'hui, ils se font, ils se constituent leur idée, leur opinion par les informations qu'ils croisent dans ces espaces dans lesquels ils sont de plus en plus nombreux. Et donc, évidemment, si pendant des semaines et des semaines, vous martelez un type d'information au détriment d'une autre, ça aura une conséquence.
Éric Scherer ?
En exemple, c'est arrivé, ça arrive déjà, puisque dans la primaire des Républicains, Juppé s'est dit victime d'une campagne dite Ali Juppé. Où un certain nombre de désinformations ou d'informations fausses, de fake news, d'infos bidons ont circulé et ont été amplifiées autour de décisions qu'ils n'avaient pas prises et qui ne sont pas apparues. En tout cas, pas dans mon réseau social à moi, ni dans le tien,
ni dans le mien d'ailleurs,
ni dans le vôtre, voilà, mais qui sont apparus chez beaucoup de gens, semble-t-il, et il s'est dit victime de notamment de cette campagne-là.
Continuons de sortir les anti-brouilleurs, comme vous disiez, Éric Scherer, et un autre personnage qui est entré dans les usages et les rédactions, c'est celui du bot, c'est-à-dire du programme informatique qui permet d'automatiser un certain nombre de tâches. On a parlé déjà en France, notamment, de robots rédacteurs. On sait que des rédactions comme Le Monde ou Les Échos ont fait appel, notamment en 2016, à des machines pour produire des articles courts et factuels. Et à l'atelier, on s'est demandé si on pouvait trouver un bot capable d'interagir avec des millennials, donc avec ces jeunesses connectées. Et on a découvert que Libération avait mis en place un bot à quelques mois de la présidentielle. Alors, c'est quoi ce fameux bot de Libé qu'on peut retrouver sur la messagerie instantanée Messenger? On écoute Gurvan Kristanadjadja. Il est au micro de Constance Léon.
Alors, le bot de Libé, c'est un robot qui doit servir tout au long de la présidentielle à informer les utilisateurs de Facebook et nos lecteurs sur la présidentielle. Donc, pour être clair, c'est une espèce de boîte à outils dans lesquels il y aurait tout un tas de décryptages sur les programmes, quelles sont les mesures phares des candidats, qui sont les candidats déclarés, comment ça se passe une primaire, à quoi ça sert, etc. C'est un outil qui reste assez pédagogique, qui est surtout destiné aux jeunes. Et on s'est rendu compte avec leur tour que en faisant la moyenne des utilisateurs qui nous ont répondu au questionnaire de satisfaction, la moyenne d'âge est de 21 ans.
C'est assez frappant finalement cette évolution du contexte. On a beaucoup de réseaux sociaux, on parlait d'algorithmes, de bulles d'informations, et on a maintenant des bots qui nous informent. Éric Scherrer, c'est une tendance lourde, je crois, aux États-Unis aussi.
Alors, c'est bizarrement une tendance qui vient de Chine et de Russie. Le bot, ça vient pas des États-Unis, mais c'est en plein essor. Parce que c'est une nouvelle interface. C'est une nouvelle interface pour rentrer dans le monde numérique. Alors, c'est une interface dite conversationnelle. En gros, il s'agit d'une conversation automatisée que vous avez avec des machines qui ont été programmées pour répondre à vos questions. Et normalement, quand c'est bien fait, pour devenir plus intelligente au fur et à mesure des questions qu'elle donne. Alors, je vous donne on vient à France Info de sortir un bot courant décembre qui permet, alors c'est pas, on est dans l'expérimentation, on est là pour tester, pour voir s'il y a effectivement un usage qui peut se développer. Le nôtre offre tout simplement des notifications personnalisées. Vous pouvez choisir le type de notification que vous recevrez, qui vont donc vous déranger dans la journée, si vous voulez tout, si vous ne voulez que de la politique, que de la présidentielle, par exemple, ou que du sport. Mais vous pouvez aussi demander au bot de vous envoyer à des heures précises un résumé de l'actu. Ça, c'est peut-être plus pratique ou plus sympa, pour avoir, par exemple, à 7h du matin ou à midi ou à 18h, je veux le résumé des 3-4 infos qui comptent aujourd'hui, et vous les recevrez de manière automatique. Je crois beaucoup à ce type de choses, non pas pour remplacer des rédactions ou des journalistes, mais pour assurer un service. Un service, là, pour le coup, fait de manière automatique. Mais je crois que, alors là, ce sont des interfaces textuelles. On arrive très vite aux interfaces vocales qui sont demain les nouvelles plateformes sont en train d'arriver et adossées à ce type de techno.
En tout cas, c'est pas parce qu'on parle d'automatisme que ça n'est pas incarné. C'est assez marrant de voir le travail qui est fait justement par Libé dans un effort de réinvention d'un ton Libération. On retrouve un deuxième témoignage de Gourvan Christana Djadja, toujours au micro de Constance Léon.
Le ton qui est utilisé par le chatbot de Libé, c'est pas mal de smiley, c'est un ton un peu enthousiaste avec des points d'exclamation.
On se tourne vers un public qui est plutôt jeune, donc 20, 21, voilà, c'est la moyenne d'âge. Voilà, moi j'ai 25 ans. Voilà, donc en fait c'est pas comme si c'était un journaliste de 50 ans qui écrivait le contenu. Donc il y a ça aussi, il y a ce côté, voilà, puis je sais par mes amis quelles questions voilà, on se pose, etc. Et voilà, l'idée c'est ça, c'est de faire comme vous avez sur WhatsApp, c'est-à-dire le support permet ça aussi. Le support permet de libérer un peu le ton, de faire des blagues, de mettre des smileys. Parce qu'en fait, si on fait un contenu qui est trop institutionnel ou trop encadré comme il serait sur Libé, déjà il y a une liberté de ton sur Libé qui est particulière, mais là le support le permet encore plus. Et je pense que ça fait aussi partie du jeu de dire que voilà, on envoie des smileys, on envoie. Et c'est marrant parce que à chaque fin, quand on n'en met pas, parce que parfois quand même on culpabilise un peu de se dire que on a foutu des smileys après le nom de Manuel Valls, mais en fait c'est marrant parce qu'à chaque fois quand on n'en met pas, on nous en demande. On dit alors vous avez perdu votre humour, vous mettez plus de smileys.
Benoît Thiolin, justement, ce genre de pratique autour des chatbots, enfin de ces bots conversationnels, vous pensez là aussi que c'est un horizon évident pour nous tous ?
Oui, d'abord, je pense que c'est aussi une étape de plus dans le lent basculement des médias vers une économie de la demande et de plus en plus ciblée et précise. C'est-à-dire que si vous regardez les décodeurs, la manière dont on va vous, décodeurs du monde, mais je dirais, vous avez tous dans tous les médias fait émerger en réalité des nouveaux types de formats qui répondent plus à une demande très précise de la part des lecteurs. Donc c'est bien parce que c'est une étape de plus dans l'obsession du souci de ce que les lecteurs demandent, y compris dans la forme, le ton adapté, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de très bien. Et puis on peut imaginer aussi que c'est une manière de pouvoir aussi, à un moment donné, donner une information, on va dire, et répondre d'une certaine manière aux soucis qu'on avait tout à l'heure. C'est-à-dire que on pourrait imaginer dans quelque temps que bah vous entendiez, vous voyez sur votre timeline que on vous a rapporté des bruits comme quoi Hillary Clinton aurait fait tuer deux policiers qui enquêtaient sur elle. Et ben à un moment donné, vous allez peut-être vous tourner vers un média en lequel vous avez plutôt confiance. Alors ça peut être Libé, ça peut être Street Vox, ça peut être Le Figaro, ça peut être n'importe quoi, peu importe. Et tout d'un coup, dit mais attendez, c'est vrai cette histoire là que voilà. Et tout d'un coup, là le média répondra. C'est-à-dire qu'il dira pas, parce que aujourd'hui en fait le problème qu'on a vécu sur cette histoire de fake news, en fait, c'est que les médias traditionnels n'en parlaient pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'était soit vous alliez dans le marasme de ces fakes, de ces fausses informations, essayer de voir et de vous faire votre propre idée, soit vous étiez dans les médias traditionnels qui n'en parlaient pas. Et en réalité, je pense que les médias doivent maintenant être des espèces de labels, de certificateurs, de tiers certificateurs, c'est ça. Ils ont perdu le monopole de la porte d'entrée, hein. Ce ne sont plus des gatekeepers, mais par contre, ils restent absolument nécessaires dans le fait qu'ils vont faire ce tri de l'information, la vraie, la bonne, la fausse, etc. Et que du coup, je pense que ces chatbots, pour moi, ça peut être une étape de plus vers ça. C'est-à-dire que demain, eh ben, je me retournerai vers mon chatbox auquel je crois. Ça peut être celui de France Télé, de France Info ou autre. Je dirais, mais c'est quoi cette histoire, là, d'Hillary Clinton? Et là, on me répondra, mais non, attendez. Alors oui, effectivement, depuis 10 jours, il y a 200 000 informations qui ont été publiées là-dessus. Ça a été démenti. Des journalistes ont fait une enquête. Et voilà, il apparaît que c'est complètement faux et qu'on doit se méfier de cette information parce qu'elle voudrait peser sur le cours des élections. Et que ce serait évidemment à tort. Cette chose-là, en réalité, ne s'est pas produite. Alors, c'est pas pour dire que c'est le chatbot qui va répondre à ça, mais ça va dans le sens de, j'ai une question très précise, j'ai pas le temps et je voudrais avoir une réponse très précise à la question précise que j'ai. Le chatbot, il amène un peu à ça.
L'une des grandes thèses qui rejoint ce qu'on disait, c'est que les clercs ont perdu le monopole de l'accès à l'espace public, et dans le même temps, il y a une volonté de la part de ces jeunes, ou d'une partie de ces jeunes, de s'approprier ce qu'on appelle justement, via les civic tech, le débat public, de contribuer à ce qu'on ait plus de transparence, d'authenticité, que la relation avec les corps intermédiaires, avec les politiques, change. Est-ce que aux États-Unis, pour partir de votre expérience, Éric Scherrer, vous avez la sensation qu'on a la même effervescence que ce qu'on a pu voir notamment en France, avec tous les laprimaire.org, Ma Voix, Vox. Est-ce qu'on a affaire aussi à cette même aspiration d'une jeune génération au fait de réinventer non pas les outils seulement des médias, mais même du fonctionnement de la démocratie elle-même, Éric Scherrer?
Moi, j'aimerais bien. Je ne l'ai pas vu encore. Non. En tout cas, je ne l'ai pas vu dans les campus, sur les campus des universités américaines. La rentrée ou la post-rentrée après novembre est calme. J'espérais. Oui, d'une certaine manière, en Grande-Bretagne, j'espérais que les campus d'Oxford et de Cambridge et peut-être réagi à ce qui s'était passé au mois de juin avec le Brexit, puisque, encore une fois, les millennials, on l'a vu en tout cas dans les votes, les millennials n'étaient pas pour le Brexit, n'étaient pas pour Trump, et pour l'instant, il n'y a aucune révolte de ces campus qui étaient autrement agités autrefois.
Et en France, Benoît Thuelin, c'est assez marquant justement le fait de voir qu'il y a vraiment une floraison d'initiatives qui essaient de donner une voix aux sans-voix, ou en tout cas à ceux qui ont l'impression que leur voix ne porte plus dans les institutions traditionnelles.
Il y a une ébullition, c'est indéniable, et c'est très enthousiasmant, et en même temps, cette ébullition, partout, en France comme aux États-Unis, se fracasse sur les institutions traditionnelles et les pouvoirs établis. Donc c'est quand même très inquiétant, et à l'inverse, le paradoxe, si vous regardez bien, je crois que Laurence Lessig, qui était à Paris il y a quelques jours, le disait. Il disait, au fond, les gatekeepers du Parti démocrate ont été beaucoup plus efficaces que dans le Parti républicain. La preuve, moi, ils m'ont empêché d'être candidat, alors que Trump, lui, a gagné. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est l'alliance paradoxale des plus classiques, on va dire, de l'autorité, du monde d'avant, qui dévoie la dynamique, au fond, d'empowerment, d'empouvoirment du numérique, qui gagne. C'est Trump plus les médias sociaux qui gagnent. C'est pas Laurence Lessig plus la technologie. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, on est dans une situation de transition qui est très paradoxale, où, au fond, ceux qui devraient, en fait, être les mieux armés, les mieux outillés par le numérique et du coup l'emporter, les millennials se font dépasser par la classe moyenne déprimée, des rednecks qui, avec un peu de numérique et des gens très traditionnels, gardent le pouvoir, sort en Brexit, fait monter les populismes partout. C'est très très inquiétant de la transition dans laquelle on est.
Éric Scherrer, vous voulez
réagir ? Non, mais sur les vieux. Hein, aussi, hein.
Bien sûr.
Ce sont les vieux qui gardent là les clés pour l'instant. Les vieux dans la situation de Trump, les vieux parce que sont effectivement sont les audiences de Fox News ou celles de Sky aux États-Unis qui gardent encore les clés.
On termine avec un petit peu de futurologie aléatoire. Cette année en France, donc comme on le disait, on aura les élections présidentielles et législatives dans la foulée. Quels sont les types d'innovations auxquelles on peut peut-être s'attendre? On sait qu'on a toujours de fortes attentes autour du fact-checking. Finalement, est-ce que c'est vraiment le fact-checking, la prochaine vague d'innovation qu'on peut attendre, qui souhaite réagir? Benoît Thulin.
Bah, en tout cas, vu ce qu'on a vécu aux États-Unis, on a intérêt à ce qu'il y ait énormément d'efforts qui soient faits là-dessus, parce que il est évident que dans la campagne prochaine qui va s'ouvrir,
il va falloir vérifier les faits.
Il va y avoir énormément d'informations, et non seulement en fait il va falloir vérifier les faits, mais en réalité il va surtout falloir vérifier ce qui circule en dehors des médias traditionnels. C'est ça le vrai sujet. C'est qu'en fait on se préoccupe de manière trop tardive de ce que lisent les gens. Comment ils s'informent? Comment se forgent aujourd'hui les opinions sous la ligne de flottaison médiatique qu'en plus la nouvelle génération en réalité ne passe pas? C'est-à-dire qu'elle regarde peu ces médias traditionnels, et dans ces millennials, on se focalise souvent sur le haut du panier, c'est-à-dire au fond sur l'élite la plus éduquée, urbaine, etc. Et un peu moins sur des jeunes qui sont aussi millennials mais qui sont moins éduqués, qui sont en situation de précarité et qui eux, du coup, basculent beaucoup plus dans le populisme. C'est le Brexit, il y a eu aussi des jeunes qui ont voté pour et qui étaient pourtant des millennials.
Éric Scherrer ?
Non, évidemment, c'est le sujet numéro un, de loin, sur lequel on travaille activement. Et nous, tant que médias de service public, c'est notre rôle absolument incontestable.
Et à France Info.
Mission de service public à France Info, France Télévisions, à RFI, à France 24. Mission de service public, débunker, débusquer, tenter de faire ce travail-là, et comme le dit Benoît, évidemment, essayer de regarder sous la ligne de flottaison. C'est quand même extraordinaire que personne n'ait vu arriver Fillon, quand même.
Éric Scherrer, en tout cas, je rappelle que vous êtes directeur de la prospective et de l'innovation de France Télévisions, et que vos excellents cahiers de tendance sont à retrouver sur le blog meta-media.fr. Merci à vous d'être venu.
Merci.
Benoît Thielin, vous êtes... Alors, je vous laisse vous présenter une dernière fois, Benoît Thielin.
Je suis juste doyen de l'école du management et de l'innovation de Sciences Po et directeur d'innovation d'Open.
Toutes les références, tous les liens sont à retrouver sur notre site habituel atelier.rfi.fr. Continuez d'interagir avec nous sur les réseaux sociaux, de nous faire part de vos innovations, de vos mobilisations en ligne, mais aussi, pourquoi pas, des informations qui passent dans votre radar. L'Atelier des médias, une émission préparée par Constance Léon, Marie-Stéphanie Servos, Camille Deloche, à la réalisation Simon de Creuse, avec la complicité de Nicolas Benita à la prise de son, au micro Julien Lebotte. L'Atelier des médias vous souhaite une belle et heureuse année 2017. Vous êtes sur RFI. Merci d'être à notre écoute.